Bonjour et bienvenue dans cette émission Les Marches de la Foi, proposée par le service diocésain de formation continue. Avec vous cette semaine, Bernard René. Je reçois aujourd'hui Grégoire Lemarchand. Après Guillaume Marsalon de la CIMAD, il viendra le jeudi 8 février à la Visitation, 26 rue d'Aligre à Chartres, dans le cadre du Centre de réflexion chrétienne d'Eure-et-Loire. Ce sera l'avant-dernière conférence débat de la saison 2017-2018. Bonjour Grégoire et merci d'être avec nous au téléphone.
Alors Grégoire, vous êtes adjoint rédacteur en chef à l'agence France Presse, AFP. Vous avez intitulé votre conférence « Post-vérité et fake news » vers un nouveau contenu addictif, avec point d'interrogation. Ce sujet est très présent dans notre actualité depuis des mois. Mais qu'est-ce qui vous a incité à mettre en évidence cet aspect addictif ?
Alors, ce qui m'a incité à parler de l'addiction, c'est que effectivement, comme vous soulignez très justement, on parle beaucoup depuis plus d'un an maintenant des fameuses, et je mets des guillemets, fake news, et encore récemment. À la fois le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il entendait légiférer sur ce propos, la Commission européenne a lancé une commission d'experts il y a une dizaine de jours dont j'ai la chance de faire partie pour réfléchir à ce qui peut être fait au niveau européen. Donc ces fameuses fake news, et moi j'entends plutôt dire désinformation finalement, puisque fake news à la fois c'est un terme anglais, donc parlons français, et puis surtout fake news aujourd'hui c'est devenu, pour caricaturer un petit peu les choses, on est tous les fake news de quelqu'un, et aujourd'hui c'est vrai que fake news c'est surtout utilisé par des gens qui vont critiquer le travail des médias, des journalistes, à partir du moment où il ne leur plaît pas. Donc je préférerais parler de désinformation. Pourquoi addictif ? Parce qu'elles disparaissent pas, elles sont toujours là. On a pris la mesure à la suite du scrutin présidentiel aux États-Unis, également du scrutin sur la sortie de l'Union européenne, sur le fameux Brexit en Angleterre, de leur énorme importance en ligne, de leur influence également, même si celle-ci, elle est de toute façon difficile à mesurer. Donc elles disparaissent pas, et c'est vrai qu'on voit, ça montre une transformation de la consommation de l'information aujourd'hui dans le monde. Les gens ne vont de moins en moins chercher de l'information, ils vont chercher des confirmations. Je m'explique, c'est-à-dire que vous allez sur Internet et vous voulez lire des choses qui correspondent déjà à ce que vous pensez. Vous venez pas chercher quelque chose de différent, vous venez pas chercher des points de vue différents, vous ne venez peut-être pas chercher la nuance. Les gens viennent de plus en plus chercher des gens qui vont penser comme eux, en tout cas qui vont aller dans le sens de ce qu'ils pensent. Donc à ce titre, les gens vont effectivement partager, lire et croire à beaucoup de contenus qui relèvent de la désinformation, du mensonge, de la manipulation, du faux. Pourquoi ? Parce que c'est en accord avec leurs idées. Alors ça peut être des idées politiques, ça peut être des idées sur des problèmes de société, ça peut être sur des choses sur la santé, ça peut être sur l'environnement, qui sont des sujets où la désinformation est extrêmement à la fois diverse, variée et présente. Mais voilà, on va de plus en plus chercher des choses qui vont en fonction de ce qu'on pense. Et à côté de ça, les médias, dont l'AFP fait partie, mais plein d'autres, ont du mal à combattre, parce que finalement, le mensonge, la manipulation, le faux, c'est quelque chose d'assez, j'allais dire presque sexy, hein, voilà, c'est simple, c'est blanc, c'est noir, les choses sont tranchées, il n'y a pas beaucoup de nuances, tandis que, la vérité, ce qu'essayent d'apporter les médias, c'est quelque chose où on va dans la nuance, le recul, les explications, le partage de points de vue. Et à l'opposition de quelque chose qui est sexy, c'est parfois, entre guillemets, et je mets plein de guillemets, ennuyeux. Et donc, c'est pas simple de lutter contre quelque chose qui fait appel, à des choses très, très, très basiques. Voilà, c'est blanc, c'est noir, c'est tranché. Et à côté, quand vous essayez de... de, j'allais dire, voilà, de partager des choses plus nuancées et de vous rapprocher le plus de la vérité. Et une dernière chose, et j'en terminerai. Les gens partagent donc effectivement beaucoup de choses fausses. Après, ils peuvent lire d'autres articles qui vont leur prouver que les choses sont fausses, mais c'est toujours très difficile pour n'importe qui, et sans être psychologue, de se dédire publiquement. Donc il y a aussi ça qui joue un petit peu.
Oui, alors ça amène une autre question. Il semble que dans bien des situations, d'ailleurs vous le relevez, la science et la raison sont rendues inaudibles par la puissance de l'émotion, des croyances, des convictions. Est-ce qu'il faut, sans renoncer au rationnel, mais peut-être plus occuper autrement le terrain avec l'émotion, l'humour, enfin des approches qui pourraient peut-être permettre de contourner la difficulté?
Alors évidemment, il y a plein de choses à faire, mais ce qui est parfois frustrant quand on est praticien d'information comme moi, c'est qu'on est sur des choses à long terme, finalement. On aimerait pouvoir répondre dans l'instant, mais c'est difficile. Et c'est vrai qu'on est sur des choses à long terme. Et aujourd'hui, effectivement, on va être, par exemple, sur quelque chose qui, pour moi, est absolument fondamental et qui... et pas du tout pris, je pense, à la hauteur du défi que cela est en France et en Europe, c'est l'éducation aux médias, tout simplement. D'enseigner aux enfants, aux adolescents, et voire même, et c'est pas du tout méprisant ce que je dis, aux adultes, voilà, d'expliquer un peu le circuit de l'information, comment on produit l'information, ce que c'est un média crédible, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment une piste. Alors, je ne vais pas non plus blanchir les médias. Les médias ont une part de responsabilité aujourd'hui. Il y a une grosse crise, de grosse défiance à l'égard des médias, parce que ils sont pas tout blancs et ils ont fait des erreurs. Ils continuent à en faire. C'est vrai que la révolution numérique aussi bouleverse beaucoup les pratiques depuis 10-15 ans, et que les médias, pour vous donner un exemple, sont rentrés dans une course à l'immédiateté, par exemple, parce qu'on veut toujours, on est toujours un petit peu à la poursuite de ce qui se dit en ligne, particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais aller très vite et répondre à l'immédiateté, bah, c'est source d'erreur, d'imprécision. On en oublie les fondamentaux du métier, qui sont la vérification, le recul. Donc ça aussi, j'allais dire, les médias donnent parfois malheureusement le bâton pour se faire battre. Et puis, dernière chose, même si il y a tout un tas d'autres réponses qu'on pourra apporter, mais dernière chose qui me semble très importante, c'est sur ce thème, une collaboration accrue des plateformes. Par plateforme, j'entends des plateformes technologiques comme les moteurs de recherche, évidemment Google, ou les réseaux sociaux comme Facebook, qui aujourd'hui ont une influence démesurée sur le monde, sur la circulation de l'information, et qui, à mon sens, alors en sont parfaitement conscientes, évidemment, collaborent avec les médias également, mais n'ont pas pris toutes les mesures qu'il faudrait prendre, parce que, évidemment, j'allais dire, promouvoir du journalisme de qualité, et puis un peu mettre sous le tapis les fameuses fake news, la désinformation, etc., ça peut parfois aller à l'encontre de leur modèle économique. Donc c'est aussi des choses sur lesquelles il faut progresser. Donc la bataille, elle n'est pas perdue, mais la bataille, elle est longue. Et pour revenir à ce que je disais en vous répondant au début de l'émission, c'est que la désinformation, ça va très vite, c'est viral, et que la vérité, la nuance, bah, il faut, c'est beaucoup plus long à porter, et on a l'impression que c'est une course de vitesse et qu'on est toujours derrière.
Bon, donc effectivement, le problème se pose sur le long terme. On espère, en vous entendant dans quelques jours, qu'on aura aussi quelques pistes, peut-être sur le plan, sur un plus court terme, sur le plan rhétorique, dans nos contacts de tous les jours, en famille, avec les enfants, les jeunes ou autres, pour avoir peut-être quelques réponses de comportement et de court terme par rapport à cette désinformation, parce que c'est aussi un enjeu.
C'est aussi un enjeu, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a effectivement tous eu, d'une manière ou d'une autre, ces discussions en famille avec des bons amis où on sent qu'il y a un fossé qui se creuse sur certaines, sur certains points sensibles, abrasives, voilà, où justement la désinformation, la manipulation prospère, et que des gens pour qui on a la plus grande estime et le plus grand amour peuvent voilà se perdre un petit peu. Faut pas, ce que je disais, faut pas perdre espoir. Faut faire œuvre de pédagogie, essayer effectivement de montrer que les choses sont différentes, de prouver, de démontrer, de pas perdre son sang-froid. C'est vrai que d'un point de vue professionnel, il y a une grande frustration pour nous, les journalistes qui font le fameux fact-checking, la vérification des faits, c'est que lorsque une information fausse et virale est partagée, admettons qu'elle soit lue par 100 000 personnes, même quand très rapidement on agit et on écrit et on prouve assez parfois très simplement et très rapidement que cette information relève de la rumeur, que c'est faux, que c'est extrapolé, que c'est manipulé, sur ces 100 000 personnes qui vont partager cette fausse information, on va en avoir 10% aujourd'hui au maximum qui vont, lire la vérification, le fact-checking et peut-être, on l'espère en tout cas, changer d'avis. Donc on a quand même un trou qui se creuse et voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste. Et pardonnez-moi, je reviens sur ce qu'on disait avant.
Très brièvement.
C'est très important. Oui, c'est très important pour ça. Et c'est un des nerfs de la guerre. Mais j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tard lors de la table ronde, lors du débat à Chartres. C'est vraiment la collaboration avec les plateformes technologiques.
Ben, nous sommes déjà au terme de notre émission. Merci Grégoire. Et alors, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à venir rencontrer Grégoire Le Marchand à Chartres à 20h30 le 8 février à la Visitation, 26 rue d'Aligre, pour cette conférence Post-vérité et Fake News, ou Désinformation si vous préférez, vers un nouveau contenu addictif. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission à toute heure sur le site de Radio Grand Ciel. Au revoir, chers auditeurs. Merci à Simon qui a assuré la technique et à bientôt sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Oh, I found under a thousand dead bodies, I found your armor with the blade of my sword. Dark in your heart. Oh, if I, oh, if I were to die, would you say that we'd die? Oh, come on. Come on. Oh, I could give you seeds when you fight for legs, by the time you stand and walk again, I will be gone. I will be gone. I will be gone. Oh, you gave. Oh, you gave me a map to find a way out, and you gave. When you fight for legs, by the time you stand and walk again, I will be gone. I will be gone. I will be gone. Oh, I could give you seeds when you fight for legs, by the time you find out what it takes, I will be gone. I will become